d'écrire les choses et puis essayer de les analyser. Voilà, mais écoute, Olivier, je te donne la parole. J'espère qu'on aura. Il arrive. Bon, mais. Voilà.
On l'attend. Ah, bah
oui, on l'attend.
On l'attend, voilà.
Allez.
Ah, d'accord. On est en avance. Alors, on est un petit peu en avance, c'est pour ça, mais c'est assez rare pour le souligner.
C'est vrai. C'est vrai,
c'est vrai. Bon, en tout cas, on espère que vous nous entendez tous bien, hein, où que vous soyez, et que vous partagez le même plaisir que nous à discuter de, enfin, à discuter et à développer ce projet Punk is Not Dead, qui est vraiment un projet participatif. Voilà, on l'a peut-être pas rappelé ce matin, mais une des caractéristiques du projet PIND, c'est que c'est une équipe de chercheurs, mais aussi une équipe d'activistes, une équipe de gens qui ont des choses à dire et qu'on est très fiers de développer ce qu'on appelle un projet de science participative, hein, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas de construire des connaissances sur ce projet sans associer les acteurs de la scène punk en France, sans partager les questionnements, sans échanger avec eux. Et évidemment, c'est quelque chose de passionnant. Et encore une fois, on n'envisage pas d'avancer sur ce projet de connaissance, voilà, sans cette participation.
Il arrive.
Ah ben, Gilles arrive, donc on est sauvé. Il présentera lui-même les éditions Rive-Neuve, mais enfin. Je rappelle en deux mots que grâce à Gilles, avec Solveig, on a pu créer une collection qui s'adosse donc au projet Punk is Not Dead, et la collection s'appelle En Marge. C'est une collection qui est consacrée à la contre-culture, à l'histoire de la contre-culture et en particulier du punk, mais pas que. On espère élargir évidemment. Et voilà. Pour rappel, ah ben voilà Gilles, j'étais en train de commencer à présenter les éditions Rive-Neuve, mais vous allez pouvoir enchaîner, hein, donc Gilles Kremer, patron des éditions Rive-Neuve à Paris, et Olivier Miglior qui nous parlera de son ouvrage « Décrits et décrètes,
chanter punk en français, 1977-1989 ».
Voilà, vous avez la parole tous
et
les deux.
Et c'est beau parce que c'est une rencontre entre un auteur et son éditeur virtuel, c'est magnifique.
Exactement.
Voilà, enchanté. Il est très beau.
Voilà.
Super.
Il est très beau.
Super. C'est la première fois que je le vois. J'ai vu des photos, mais là, le voir bouger, c'est chouette.
C'est du réel. C'est du réel.
Bon, super.
Ce n'est pas qu'un livre virtuel.
Alors, comment on fonctionne? Est-ce que vous prenez la parole en premier ou est-ce que je présente un peu cet ouvrage dans sa démarche?
Alors, si vous le voulez bien, moi, je n'ai rien à dire de particulier sur l'ouvrage, sinon qu'on est très fiers de le publier, mais peut-être je dis deux mots de la collection et après, vous prenez la relève sur
très bien.
Lui-même.
Allez-y.
Donc, c'est un petit peu dans la grisaille des temps, l'occasion de vous montrer un peu de la couleur. Donc voilà les trois ouvrages d'une collection En Marge qui ont été lancés par Solveig Ser et Luc Reben. Et quand ils sont venus, ils ont envoyé en fait un projet. On avait des publications que l'on faisait avec d'autres universités sur la radicalité militante. Et je crois que c'est par ce biais-là qu'ils ont su que nous publions des textes universitaires, mais avec une approche plus grand public, puisque c'est un petit peu ça le projet de Rive-Neuve, une maison d'édition petite qui entend raconter le monde indépendante, qui entend raconter le monde, le français au monde et le monde au français et les français au monde. On est très ouvert sur l'international, mais un projet comme celui-ci, et notamment le colloque actuel mondial, montre bien qu'il y a une dimension internationale évidente, avec une dimension sociale et politique. Et le projet que Solveig et Luc ont et nous ont présenté nous a tout à fait intéressés, c'est-à-dire étudier la société à travers ses marges, et les marges étant tout à fait signifiantes. Donc ça, c'est un processus intellectuel dans lequel on est tout à fait, mais également avoir une approche très scientifique, très respectueuse de protocoles et un sérieux de vérification d'informations, etc., tout en ayant une forme ouverte au public. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un langage ou une façon de s'exprimer ou une présentation austère. Ça, nous l'avons fait. Rive-Neuve, avant que je ne prenne les choses en main, il y a 4-5 ans, c'était une maison d'édition qui publiait des gros livres, très difficiles à lire, des grands formats, des choses larges comme ça. Et là, ce qu'on a beaucoup aimé, c'est que Solveig et Luc nous ont tout de suite proposé une collection cohérente avec des formats, des couleurs et une approche formelle également, qui nous convient parfaitement. Alors nous, on a mis notre petit grain de sel, on fait beaucoup de livres avec justement des rabats, comme ça, c'est un peu notre marque de fabrique, et donc ça donne un objet qui est très élégant et que les libraires aiment bien aussi présenter et vendre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a du travail universitaire, mais qui est accessible au grand public, et qui en plus est présenté dans un bel objet. C'est pas un gros livre avec plein de logos derrière et des titres de cinq lignes relativement inaccessibles. C'est quelque chose de très accessible. Donc on a commencé avec Fun et Mégaphone, qui faisait un petit peu un panorama sur le monde punk en Suisse, France, RFA et RDA. On a poursuivi avec Underground, sur un petit peu la posture du chercheur quand il est à la fois un analyste sociologue et en même temps il est punk lui-même. Et donc, c'était un peu des parcours de vie, des parcours de chercheur. Et puis, on poursuit avec Des Cris et des Crêtes, où là, on a une analyse beaucoup plus pointue sur le chanté punk en français. Et donc, je laisse la parole à celui qui a écrit l'ouvrage et que nous publions et qui sort en librairie ce mois de décembre.
Bien, écoutez, merci. Par ailleurs, enchanté de vous connaître, de vous rencontrer. Ça tombe bien, je voulais donc dire quelques mots pour présenter mon premier livre. Donc, j'en suis très heureux. Je commencerai par remercier Solveig et Luc de vive voix, mais également Hyacinthe et Bertrand, et Flavien pour leur boulot acharné pour les relectures. Je sais qu'il y a eu énormément de travail de fait et on en parle assez peu généralement lorsqu'on sort un bouquin. Donc, je salue vraiment leur travail aussi. Voilà. Merci à tous. Alors, voilà, ceci étant fait, voici encore un livre donc sur le punk, effectivement, et si vous pensiez que tout a été écrit sur le sujet, vous vous trompez, car cet ouvrage s'articule autour d'un constat absolument révolutionnaire et novateur, le punk, c'est de la musique. Bon, c'est à partir de cette vision tout à fait originale que je me suis demandé ce qui pouvait au mieux décrire et caractériser ce style de musique. Donc, en gros, qu'est-ce qui sonne punk ? Alors, est-ce son matériau musical, ses mélodies, ses rythmes, ses harmonies ? Et dans ce cas, il suffit d'utiliser les outils traditionnels de l'analyse musicale, les mêmes que ceux utilisés, par exemple, pour aborder le Sacre du printemps de Stravinsky. Mais, bon, après quelques essais, étrangement, ces outils, pourtant très efficaces, n'ont absolument rien donné. L'intérêt musical du punk ne semble pas résider dans le génie de son écriture harmonique, mélodique ou d'orchestration. Alors, où se place ce génie ? Eh bien, c'est là à ça que j'ai essayé de répondre. Donc, je suis chanteur et guitariste, moi, à mes heures perdues, et je me suis toujours demandé à quoi tenait la reconnaissance d'un style musical. Et je me suis toujours dit, intuitivement, que celle-ci tenait dans son phrasé vocal. En gros, c'est dans comment je place ma voix pour faire sonner une œuvre dans tel ou tel style. Et c'est ainsi que mes recherches sur la prosodie musicale ont commencé. Alors, le terme prosodie musicale, en gros, ça implique que ça définit comment se place la voix sur la musique. Est-ce que les syllabes vont tomber sur les temps, ou plutôt entre les temps, mais alors où ? Est-ce que les syllabes sont accentuées ? Si oui, lesquelles le sont ? Pour quelles raisons ? Des raisons sémantiques, esthétiques, ainsi de suite. Si une syllabe tombe sur un temps, sur quel temps de la mesure ? Et pourquoi ? Est-ce que ça correspond au temps accentué dans ce style de musique ? Bref, autant de questions et d'obsessions que j'ai commencé, qui m'ont permis de m'intéresser au cas du punk, et donc ce style de musique qui m'a toujours vivement interpellé. Donc la question centrale du livre est la suivante. Qu'est-ce qui fait la particularité du phrasé punk lorsque celui-ci est chanté en français ? Quelles sont les particularités fondatoires de ces voix emblématiques du punk français des premières vagues? Est-ce qu'elles sont nasillardes, claires, saturées, vibrées, donc ainsi de suite? Et de quelle manière placent-ils leur voix sur la musique? Donc ils crient, ça on le sait, ils hurlent, ils vitupèrent, oui, leur voix sonne punk, sans que jamais n'ait été défini précisément en quoi chanter punk consiste. Et vu que ce livre répond à des questions, hein, oui, c'est un livre avec des réponses, eh bien, il y a les questions suivantes qui sont bien sûr toutes abordées. Quels sont les aspects techniques de cette expression vocale? Quels sont les imaginaires vocaux sollicités? Quels sont les narrateurs de ces hymnes? Quelles sont les identités vocales qu'ils mettent en avant? Et bien sûr, comment cela les positionne au sein de contextes politiques et sociaux qui les ont vus émerger? Donc, c'est pour répondre à ces interrogations que j'ai écrit cet ouvrage en centrant mon étude sur le punk de France, chanté en français tel qu'il apparaît durant l'année 76 à Paris et en région. Bon, du coup, bien sûr, pour ceux qui souhaitaient savoir pourquoi Johnny Rotten a voté Trump ou pourquoi Vivian Westwood réalise la couverture d'un bouquin à 750 euros consacré à Elisabeth II, ou pourquoi Bondage Record n'a pas été au punk ce que Motown fut à la Sound Music, et là, je reprends les termes de Christophe Pirenne qui a préfacé l'ouvrage, eh bien, ceux-là seront déçus. Par contre, pour ceux qui souhaitent comprendre pourquoi une voix, des paroles, un phrasé les ont si vivement interpellés et ont pour certains transformé leur vie, ou ont généré pour d'autres des vocations, encore mieux effrayer le bourgeois, et bien ceux-là seront aux anges. Le livre que j'ai écrit s'intéresse très très méticuleusement à la langue punk sous tous ses aspects. Et coûte la modique somme de 20 euros, donc entre Vivian Westwood et moi, hein, à vous de voir ce que vous choisissez. Alors bien sûr, il y a des passages très méthodologiques qui présentent avec beaucoup de sérieux le cadre scientifique dans lequel je réalise cette étude. Donc là encore, je me démarque de Vivienne. La linguistique et la musicologie en prennent pour leur grade, mais toujours avec bienveillance, bien sûr, dans le but de faire avancer les études musicologiques sur la voix dans les musiques populaires. Donc j'y remets en question de nombreuses idées reçues sur la langue et sur l'oralité. Alors le néophyte y apprendra un nombre considérable de termes très précis et de vocabulaire pour désigner le langage oral, et du coup, il ne s'écoutera plus jamais parler de la même façon. Il analysera son discours avec finesse à propos et érudition. Hein. Ce même néophyte devrait également pouvoir prétendre à devenir ingénieur informatique à la fin de la lecture de l'ouvrage, puisqu'il y découvrira un certain nombre d'outils de l'IRCAM utilisés dans le cadre de ce livre. Donc. Et que chacun se rassure, l'auteur, en l'occurrence moi, use d'une pédagogie tout à fait bienvenue, qu'il convient de saluer, permettant à tout un chacun de passer son doctorat de linguistique, de sciences informatiques et de musicologie à l'issue de la lecture. Voilà, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Alors enfin, une fois vos doctorats en poche, eh bien, vous pourrez découvrir quoi faire de cette armada méthodologique. Pour ma part, elle me permet d'aborder avec une extrême précision les phrasés de Gilles Tanguy, d'Éric Desbrits, de Claude Panic, de Gilles Bertin, de Kent, de Karim Berouka, d'Éric Bliss, de François Guillemot, ici présent par ailleurs, respectivement chanteur ou hurleur, hein, à voir, donc des groupes Les Olivenstein, Metal Urbain, Star Shooter, Caméra Silence, Ludwig von 88 ou encore Berrurier Noir. Et ainsi, de montrer comment, dans les spécificités de leur voix, se construisent des personnages vocaux tout à fait en adéquation avec la philosophie punk de l'époque. Le lecteur découvrira que dans les tréfonds de leur voix peuvent se construire l'insolence, la violence, la bêtise, la nonchalance, l'amateurisme, l'engagement, et bien sûr, je vous laisse découvrir de bien nombreux autres personnages, et je ne voudrais pas spoiler les résultats d'un tel chef-d'œuvre. Voilà, donc sept morceaux principaux sont particulièrement analysés, décortiqués, approfondis, et délimitent ma période d'étude qui va donc de 1977 à 1989. On commence en 1977 avec Clé de Contact de Metal Urbain et on se termine en 1989, donc au concert de Porcherie à l'Olympia des Berruriers Noirs. Entre 1977 et 1989, je m'intéresse aux voix et aux phrasés d'artistes emblématiques, mais bien différents dans leur style. C'était le but d'avoir une hétérogénéité. Et leur lieu de production également, tels que donc les Rouennais des Olivenstein, avec le morceau « Fier de ne rien faire », La Bière, des Garçons de Boucher, Pour la gloire, des Bordelais de Caméra Silence, Get Back, des Lyonnais, Star Shooter, ou encore les Athlètes, de Ludwig von 88. Donc les analyses de la voix et des phrasés, et les conclusions que j'en tire, sont toutes fondées sur ces morceaux, mais également bien sûr sur de très nombreux autres qui sont fréquemment cités à titre d'exemple. Alors vous y découvrirez bien sûr beaucoup de paramètres vocaux que j'ai spécifiquement créés pour l'occasion, tels que le degré de synchronisation entre la voix et les instruments, mot barbare. Alors son but à celui-là, c'est d'exprimer la propension d'un chanteur à contraindre sa voix à la rigueur de la métrique musicale, ou au contraire, à s'en extraire, donc en créant sa propre métrique. Bref, un tas de petits détails qui semblent anodins, mais qui accumulés propose une lecture de l'oralité punk tout à fait inédite. Voilà. Donc je finirai bien sûr en vous disant que c'est un très bel objet, je trouve aussi, magnifiquement préfacé d'ailleurs par Christophe Pirenne, superbement illustré pour sa première découverte par Pop Punk, un livre qui se compose d'ailleurs de très nombreuses images, tableaux, exemples musicaux et graphiques qui vont étoffer le propos, et aussi pour ceux qui préfèrent regarder les images. Si vous souhaitez tout savoir sur comment chanter punk en français, vous construire un super vocabulaire expert sur la voix pour en parler avec précision et avancer des arguments imparables lors de vos futurs apéros WhatsApp lors de la troisième vague de Covid, eh bien, achetez mon livre, vous ne serez pas déçus. Voilà. J'en ai terminé.
Merci beaucoup, Olivier. Nous, on redit tout le plaisir qu'on a de travailler avec Gilles, parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est que ou ce qu'il ne sait pas d'ailleurs, c'est qu'on avait contacté tout un tas d'éditeurs qui n'ont pas voulu de nous parce que sûrement le nom de la collection En Marge était bien trop subversif. Voilà, donc on est très très contents et puis on est content que Gilles ait accepté, ce qui est très rare je trouve, de nous laisser les coups des franches sur la taille du livre, le graphisme du livre, parce que c'était hyper important qu'il y ait l'identité peinte qui transparaisse, parce que moi par exemple je suis allergique aux classiques Garnier qui sont tous jaunes et qui en fait il y a aucune personnalité du livre, donc on est très très content. Effectivement, on remercie Podpunk qui ont cette idée visuelle graphique de peindre depuis le début. Et comme Olivier, je voulais remercier Flavien et Hyacinthe qui sont ici présents, qui sont plus que nos petits yeux, voilà, qui ont des yeux de lynx tous les deux. Donc et quatre yeux de lynx, ça fait voilà, ça marche très bien.
Une meute de lynx, ouais, ça
voilà,
marche
ça
très bien, bravo.
Exactement. Voilà, donc c'est un joli livre. Il y a une jolie préface. Il y a des beaux dessins, effectivement. C'était horrible à mettre en page. Mais on est très, très contents. Et je pense qu'on peut vous annoncer, je ne sais pas s'il est là, mais il nous a donné son accord, que le prochain sera celui de notre ami Tim et qu'il sera donc consacré à la scène punk en Irlande. Ce sera donc son travail de thèse remanié largement parce qu'évidemment, une thèse, ça fait 500 pages. Et les ouvrages chez Rive-Neuve, quand ils sont… En gros, il faut qu'on arrive à 150 pages Word pour que ça fasse un ouvrage de 268 pages, c'est ça, Gilles? Ou je ne sais plus combien. Donc,
un multiple de 16,
donc on espère avant l'été d'arriver à sortir le bouquin de Tim. Et en plus, je tiens aussi à remercier Tim, comme c'est le colloque annuel qui nous rend toujours beaucoup de services pour les traductions, parce que les projets de financement qu'on fait, il faut toujours des choses en anglais, des résumés, etc. Et si on n'avait pas Tim, ça serait beaucoup, beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc merci beaucoup à Gilles et à Olivier. Et puis vraiment Gilles, merci du fond du cœur pour la confiance que tu nous fais, parce que c'est très précieux et on espère, on a plein d'autres idées d'ouvrages à publier, donc voilà, la collection, je ne sais pas si vous avez remarqué que sur la tranche on a mis les lettres, donc là il n'y avait pas de lettres, ce n'est pas une erreur, c'est parce que c'est l'espace de En Marge, mais on espère bien un jour arriver même au bout du point d'exclamation pour recommencer
quand vous les rangerez dans la bibliothèque,
quand vous les rangerez.
Sur la tranche.
Voilà.
Et j'en profite pour vous remercier, Gilles, de me publier, en fait, hein, tout simplement. Merci beaucoup. C'est très aimable. Voilà. Ça permet de faire voir mes recherches. Merci bien.
Oui. Je vous remercie de me remercier. Ah, on a fait la boucle.
On a fait le tour.
C'est bon. On va continuer.
Alors, on va continuer. Donc, c'est la deuxième série, on va dire, d'interventions scientifiques. Et nous allons céder la parole à Laurent Grune. Lolo, est-ce que tu es là?
Voilà, et Pierre Lovecchio.
Alors là, Lolo, on ne le voit pas, il est en train de courir, de faire semblant qu'il écoutait tout. Ah non, il est là. Voilà.
Pensez-vous, j'ai mes commentaires qui peuvent témoigner.
Cartographier le punk, bon.
Alors,
vaste projet, et passionnant.
Je vais démarrer à l'envers, parce que Pierre vient de m'envoyer un SMS pour dire que son PC a planté, donc j'espère